Je lui ai posé mes questions et à ma grande surprise, pour toute réponse, il ouvrait sa Bible et il me disait « Vas-y, lis ». Et je lisais, et puis ensuite on discutait autour de ce que la Bible disait. Et ce jour-là, j'ai compris deux choses essentielles. La première, c'est que la Bible s'adresse à moi. Elle parle de mes difficultés, elle parle de mes luttes, elle parle de la vraie vie, quoi. Et puis la deuxième, c'est que c'est elle qui a les réponses à mes questions. C'est pas le pasteur, c'est pas le prêtre, c'est pas le pape, c'est la Bible qui a les réponses à mes questions. Vas-y, lis. Et puis il y a autre chose qui s'est également passé ce jour-là, quelque chose qui a changé le reste de ma vie, quelque chose qui m'a amené ensuite à dévorer cette parole qui m'était apparue si sèche jusqu'ici. On va ouvrir cette Bible, on va ouvrir cette parole, on ira en acte 2, mais avant je vais prier. Seigneur, aujourd'hui, peut-être plus que jamais, puisque nous célébrons la Pentecôte, Seigneur, nous te demandons l'assistance de ton Saint-Esprit pour comprendre la profondeur de ta parole et surtout pour comprendre ce qu'elle a à nous dire à nous aujourd'hui, Seigneur. Et nous reconnaissons que pour ça, pour que cette parole ne reste pas une parole sèche, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous te prions, Seigneur, pour que tu fasses ton œuvre en nous. Et nous savons que tu l'as fait, puisque tu dis toi-même que ta parole ne revient pas à toi sans effet. Alors, on te remercie d'avance pour ce que tu vas produire dans nos vies avec la lecture de cette parole aujourd'hui. Amen. Acte 2, et je vais lire les 13 premiers versets, qui nous disent ceci. Alors, avant. Voilà. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'entre eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration et ils disent « Tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. Alors comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses parents ? Nous venons du pays des Parthes, de Médie, d'Élam, de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie. Nous venons aussi d'Égypte et de la partie de la Libye qui est près de Cyrène, de Rome, de Crète, d'Arabie. Parmi nous, certains sont juifs et d'autres aussi obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous les entend annoncer dans sa langue les grandes choses que Dieu a faites. Ils sont tous très étonnés et ne savent pas quoi penser. Ils se disent entre eux, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais d'autres se moquent des croyants en disant, ils sont complètement ivres. C'est dire la confusion qui a lieu à ce moment-là. Les uns ne comprennent pas ce qui se passe, les autres pensent que tout le monde est saoul. Et c'est vrai qu'on se trouve devant un récit qui nous rapporte des faits surprenants. Un bruit comme un souffle d'un violent coup de vent qui remplit soudainement la pièce, des langues de feu qui viennent se poser sur les disciples, et un groupe de Galiléens, là, qui se met à dire les merveilles de Dieu et que chaque personne, d'où qu'elle vienne, et quelle que soit sa langue maternelle, comprend dans sa propre langue. La situation est tellement confuse que Pierre va devoir expliquer par la suite que non, ils ne sont pas sous, en fait. C'est là l'œuvre de l'Esprit Saint, dit-il, qui est descendue sur eux conformément à ce qu'avaient annoncé les prophètes et aussi à ce que Jésus avait annoncé quelques jours plus tôt. Alors, on voit toute cette scène, assez spectaculaire, et on se dit, waouh ! Mais alors, c'est à ça que ça ressemble quand on reçoit l'Esprit-Saint ? C'est ça qui se passe. Et beaucoup de chrétiens observent leur propre vie et se disent, mais moi, j'ai pas vécu ça. J'ai pas connu quelque chose comme ça. J'ai pas vu un vent violent comme ça rentrer dans la pièce. Alors finalement, est-ce que Dieu habite en moi ? Est-ce que j'ai bien reçu l'Esprit-Saint ? Et c'est pas une petite question que celle-ci. Parce que Romains 8, verset 9 l'affirme, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. L'Esprit-Saint, c'est ce qui fait de nous un chrétien. Alors aujourd'hui, on célèbre la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est ce fameux jour, effectivement, où l'Esprit-Saint est descendu sur les disciples après que Jésus soit remonté auprès du Père. Pentecôte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire littéralement le 50e jour. C'est le 50e jour après quoi ? Eh bien, après Pâques. Et Pâques, avant d'être la fête chrétienne de la résurrection du Christ, c'est une fête juive. Elle célèbre la sortie des 400 ans d'esclavage du peuple hébreu en Égypte. Et cet événement, qui est déjà grandiose quand on y songe, quand on pense à la mer Rouge qui se sépare en deux, aux Israélites qui la traversent à pied sec, à cette mer qui se referme sur les Égyptiens qui leur couraient après, c'est quelque chose de spectaculaire. Et pourtant, cet événement est annonciateur d'un événement plus grand encore, bien plus grand encore, et qui nous concerne, nous, au premier plan, puisqu'il s'agit de notre libération de l'esclavage du péché. Jésus a pris sur lui, à la croix, la condamnation qui pesait sur nous du fait de nos fautes. Et quiconque, aujourd'hui, se repent de son péché, c'est-à-dire se reconnaît pécheur, et marche à la suite du Christ, croit en lui, croit en l'efficacité pour lui-même de son sacrifice à la croix, eh bien, est pardonné et peut dorénavant vivre libre. Et la Pentecôte, c'est pareil dans le sens où, avant d'être la fête chrétienne de la venue de l'Esprit-Saint sur les disciples, la Pentecôte est aussi une fête juive. C'est Shavuot, c'est la fête des semaines, une fête qui célèbre le début de la moisson. De la moisson. La Pentecôte, c'est d'abord un événement qui vient nous cueillir, nous saisir, parce que nous sommes nous-mêmes le fruit de la moisson. Et dans le même temps où il nous cueille, c'est aussi un événement qui nous envoie. La moisson est grande, dit Jésus, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus est venu non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Or, le fruit est mûr, le blé est monté et l'heure est venue de moissonner. Mais on va commencer par le commencement, qui est que la Pentecôte vient nous saisir. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que les disciples ont vécu quelque chose là d'extraordinaire. Et certains voient ça et se demandent comment le reproduire. Et il y en a qui ont noté avec raison que les disciples étaient tous réunis dans un même lieu et qu'ils étaient assidus à la prière. Alors ils se sont dit, eh ben c'est ça la technique. Il faut être assidu à la prière. Pour recevoir l'Esprit Saint, il faut prier, prier, prier encore jusqu'à ce qu'il vienne. Et plus tu pries avec ferveur, plus tu reçois ta dose d'Esprit Saint. C'est évidemment une très bonne chose de prier. Et il y a évidemment un rapport entre l'Esprit Saint et la prière, puisque nous entretenons cette relation que nous avons avec le Seigneur, nous la cherchons, et comme c'est son désir, eh bien, il y répond assez facilement. Mais ce rapport, dans une perspective chrétienne, c'est le rapport inverse. Les chrétiens sont invités à prier par l'Esprit. Éphésiens 6, 18 nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications ». Jude, verset 20, nous dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Fondamentalement, les chrétiens n'ont pas tant besoin de prier pour recevoir l'Esprit-Saint que besoin de l'Esprit-Saint pour pouvoir prier. Romains 8, 26 nous dit que l'Esprit Saint vient nous aider, nous qui sommes faibles, parce que nous ne savons pas prier comme il faut. Alors, qu'est-ce qui a fait fondamentalement que les disciples ont reçu l'Esprit Saint ? Eh bien, c'est une chose toute simple, c'est que c'était une promesse de Dieu. Et ils ont cru à cette promesse. Jésus, avant son ascension, leur a dit, en acte 1, verset 4, « Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé, Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Et les disciples ont cru à cette parole. Et ils sont restés à Jérusalem. C'est comme ça qu'on sait qu'ils ont cru. Ça, c'est le témoignage de leur foi. Et parce qu'ils ont cru, ils ont vu. Quand on regarde à l'extraordinaire de ce qu'ils ont vu, on ne regarde pas au bon endroit. Ce qui est à regarder et à imiter, c'est leur foi dans la promesse de Dieu. Et il se trouve qu'il y a une promesse pour nous aussi. Parce qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre se met à prêcher à la foule. Il va leur expliquer que ce Jésus qu'ils ont crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et en acte 2, verset 37 et suivant, on lit ceci. Quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Et ils demandent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, qu'est-ce que nous devons faire ?» Pierre leur répond, « Changez votre vie. » Autrement dit, « Repentez-vous », c'est notre traduction. « Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Nous avons là trois personnes ce matin qui n'ont plus à se soucier de savoir si elles ont reçu l'Esprit Saint. Elles se sont repenties, on les a entendues. Elles se sont engagées publiquement devant Dieu, devant les hommes et devant les puissances spirituelles. Alors qu'il y ait du vent, des langues de feu, ou qu'il n'y en ait pas, qui descendent sur nous ce matin, la promesse est pour elles. L'Esprit Saint vit en vous. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est supposé se passer ? Eh bien, l'Esprit Saint nous envoie vers la moisson. Là encore, quand on regarde à l'extraordinaire de ce que les disciples ont vécu, on regarde au mauvais endroit. Alors, je vais écourter un petit peu. J'avais prévu toute une étude là, sur les actes et tout ça. Mais on va aller voir simplement ceci. Ça, c'est un tableau qui recense tous les passages dans le livre des actes où il est question de l'arrivée de l'Esprit Saint sur les disciples. Et ce qui revient systématiquement, ce qu'on voit clairement sur cette longue colonne remplie de croix, c'est que quand l'Esprit Saint arrive sur quelqu'un, quand quelqu'un est rempli de l'Esprit Saint, ce qui arrive, c'est la proclamation. C'est la prédication, c'est la louange, c'est la prophétie. En un mot, c'est le témoignage. Parce que celui qui reçoit l'Esprit Saint se retrouve avec le cœur bouillonnant du trésor qu'il a découvert en Jésus-Christ. Et il a envie d'en parler autour de lui. Il a envie de chanter les louanges de Dieu. Et je ne dis pas qu'il y arrive toujours, parce que parfois on est aussi pris par une timidité, ou au contraire, parfois d'autres se découvre terriblement maladroit parce qu'il partage un peu à tort et à travers, parce que cette envie de partager ce qu'on a découvert est là. Cette envie est là. Alors, si dans les temps qui viennent, vous avez quelques personnes là à côté de vous qui vous saoulent un peu avec ce qu'ils vivent avec Jésus-Christ, eh bien c'est normal. C'est l'action de l'Esprit-Saint dans leur vie. Ne leur en voulez pas trop. Parce qu'on est moissonné. On en a vu trois ce matin qui ont été moissonnées, mais elles sont aussi moissonneuses maintenant. Peut-être que toi, tu n'en es pas là. Peut-être que toi, tu fais partie de ces ouvriers qui manquent encore à l'appel. Eh bien, Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Et si tu te reconnais pécheur, et si tu reconnais en lui ton sauveur, Eh bien, tu as là une belle occasion. Dis-le-lui. Dis-le-lui avec simplicité de cœur. Parce que la Bible nous dit aussi que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. La moisson est prête. À voix haute ou dans ton cœur, confesse-le. Jésus est Seigneur. Je vais prier. Seigneur, quelle joie et quelle grâce que d'assister à la moisson, à la cueillette de ces trois beaux épis qui sont passés ce matin par les eaux du baptême, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait dans leur vie, dont elles ont témoigné devant nous tous, Seigneur. Nous sommes témoins de ça. Nous sommes témoins également qu'elles sont passées par les eaux du baptême, qu'elles sont scellées de ton Saint-Esprit et que personne ne les ravira à ta main. Seigneur, tu les bénis. Elles se sont engagées envers toi, mais toi, tu t'es engagé envers elles bien avant, Seigneur, par ton sacrifice à la croix. Et elles t'ont reconnu comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, ce qui signifie que tous les jours de leur vie, tu vas les sauver. Tous les jours de leur vie, tu vas les guider. Seigneur, c'est une telle grâce de te connaître si tôt, de pouvoir partir si tôt sur les bons rails de ton évangile, de pouvoir partir si tôt à ta suite, toi qui te lèves comme une colonne de feu quand il fait nuit, qui te lèves comme une nuée quand il fait jour. Toi qui as dit que tu ne nous laisserais jamais orphelins parce que tu as envoyé ton Saint-Esprit. Je te remercie, Seigneur, parce que tu vis en elle. Seigneur, je te prie de te déployer de toute ta présence dans tous les recoins de leur être. Seigneur, nous savons qu'en nous subsistent des coins obscurs, mais toi, tu les amènes à la lumière au fur et à mesure de notre vie chrétienne, parce que tu nous fais aller de progrès en progrès. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait déjà dans leur vie, et merci aussi pour tout ce qui est encore à venir. Je te prie aussi pour toutes celles et tous ceux qui, aujourd'hui, sont dans l'obscurité, sont comme des brebis errantes sans berger. Seigneur, tu es le bon berger. Nous avons entendu le témoignage de nos trois sœurs ce matin. Tu es le bon berger. Nous te prions, Seigneur, d'aller à la rencontre de chacune de ces brebis qui se sont perdues. Et si l'une d'elles ce matin se reconnaît perdue, Seigneur, toi tu es fidèle et bon, tu vas à sa rencontre. Merci aussi pour ce que tu fais dans ces cœurs-là. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.
Sœurs,